Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, citoyens, nous sommes appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Les législatives, ce sera pour le mois prochain. Il m'a néanmoins semblé intéressant de vous parler de Parlement aujourd'hui, après l'histoire de l'Élysée il y a 15 jours, et plus particulièrement de l'Assemblée nationale. J'ai convié pour le faire un des meilleurs connaisseurs du Palais Bourbon à travers les siècles, Bruno Fuligny, qui dirige la mission éditoriale de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que pour lui, cette maison, cet hémicycle n'ont aucun secret.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Monsieur de Fraissinet était sous la Troisième République une sorte d'exception au sein d'un personnel politique très largement composé de juristes et de littéraires. Lui, comme Sadi Carnot d'ailleurs, était un scientifique. Il était polytechnicien, ingénieur des mines. Il avait été élu sénateur de la Seine, c'est-à-dire de Paris, en 1876. Et puis, il avait détenu plusieurs portefeuilles ministériels importants. Sa carrière politique aura été très longue. Elle va s'éterniser même jusqu'après la Première Guerre mondiale. Fraissinet entre par ailleurs à l'Académie en 1891. Or, au lendemain de la Grande Guerre, ce très honorable parlementaire rédige un manuscrit que devait tirer de l'oubli il y a quelques années un historien de l'Université de Poitiers, Monsieur Jérôme Grévy. Cela s'intitule « De l'éloquence parlementaire ». C'est une sorte de manuel à l'usage des orateurs appelés à s'exprimer et à se faire entendre au sein d'une chambre, que la chambre soit haute ou basse. Il n'y a somme toute entre la Chambre des députés et le Sénat qu'une différence de fièvre qui se mesure en petits degrés. Je cite Jérôme Grévy. Dans la seconde partie de ce manuscrit, la première, il faut vous dire, est consacrée à une défense du régime parlementaire. Donc dans la seconde partie, Fraissinet établit une typologie des discours en insistant davantage sur ceux qu'il estime meilleurs que les autres. Alors il faut vous dire que d'abord, il y a les orateurs que Fraissinet n'aime pas. Il y a le nonchalant, le superficiel et le changeant. Le discours du nonchalant est, sur le plan stylistique, de grande qualité, admet Fraissinet. La forme est parfaite, mais ce discours est dit sans conviction. L'argumentation du superficiel est quelconque, peu approfondie. Indéniablement, les arguments ont été cueillis au fil des conversations de couloir. L'orateur changeant a beau maîtriser les ressources du langage et savoir captiver ses auditeurs, il est en réalité peu écouté, car chacun ne peut s'empêcher de penser qu'il changera de nouveau de position. Les trois ont en commun leur détachement, la distance qu'ils maintiennent avec la chose publique, qu'ils semblent considérer comme un passe-temps, sans prendre en compte les enjeux des débats. « Rien à voir, ajoute Fraissinet, avec les orateurs passionnés et chaleureux, dont Gambetta, entre nous, paraît être l'archétype, si l'on en croit Fraissinet. L'orateur chaleureux et passionné, je cite, « commence d'une voix simple et grave. Il esquisse à grands traits la cause qu'il vient défendre. Il ne s'attarde pas aux détails parce qu'il s'adresse à un auditoire informé et qu'il sait que les longueurs nuisent aux résultats cherchés. Il prend ses auditeurs à témoin, il les interroge, les presse, les somme de servir le pays, de s'élever au-dessus des considérations accessoires. Il revient sur ce grand intérêt qui doit les unir, il insiste, sa voix se fait tour à tour suppliante et presque impérieuse, tout son être vibre, la conviction déborde de ses lèvres, l'assistance s'émeut, plusieurs de ceux qui ne partagent pas son avis sont entraînés. La Troisième République a duré 70 ans, de 1870 à 1940, mais la période de gloire de l'hémicycle, la grande époque de l'éloquence parlementaire, va à peu près du milieu des années 70 à la guerre de 14, soit une quarantaine d'années, presque deux générations de joutes parlementaires, attisées par la prééminence incontestée du Parlement à cette époque, et spécialement de la Chambre des députés dans les institutions d'un régime qui se veut, qui est essentiellement parlementaire. De grands historiens de la chose politique, Jean Dubois, Jean Touchard, Antoine Prost, René Raymond qui a été mon professeur, plus récemment encore Jean-Marc Guilin dans un bel article de la revue Parlement, tous se sont penchés sur ces joutes, sur leurs rites, sur leurs mécanismes. Ils ont fait revivre ces moments d'ébullition parlementaire que conservent comme congelés, si vous voulez, les comptes rendus de séance, ces comptes rendus qui sont pris sur le vif par les logographes à pointer et qui sont ponctués de ces indications en italique, un peu comme les didascalies d'une pièce de théâtre, applaudissements prolongés, rumeurs, agitation sur les bancs de droite, non, non à gauche. Évidemment, il faudrait distinguer dans les interventions des députés les discours préparés, lus à la tribune, et puis les interventions plus spontanées, pour ne rien dire des incidents de séance et des échanges à la fois très vifs et parfois spirituels auxquels ils peuvent donner lieu. Théoriquement, écrit Jean-Marc Guilin, parlementarisme et violence semblent contradictoires, et lorsqu'un député est violent, il s'éloigne des conventions implicites du langage d'assemblée, ainsi que le notait déjà Eschine dans le Contre-Timarc, où il estimait qu'il ne convenait pas de donner au beau milieu de l'assemblée une exhibition de lutte. Elles correspondent, nous dit-il, au progrès de la civilisation, qui se caractérise selon Norbert Elias par la maîtrise de l'affectivité et la monopolisation de la contrainte physique par le pouvoir d'État. La violence est donc normalement exclue de l'enceinte parlementaire, conformément à l'exigence de dignité citoyenne qu'évoque souvent Auguste Paris, toujours soucieux de donner une image positive du Parlement. Toutefois, cette retenue recommandée n'exclut nullement le recours à d'autres formes de violence, symboliques celles-là, particulièrement dans les luttes pour le pouvoir qui se développent notamment au Parlement. En effet, l'Assemblée est un espace conflictuel où la virulence des échanges contradictoires, parfois favorisés par l'architecture, est étroitement liée au contexte politique. Voilà des termes bien savants, somme toute, pour nous dire que la violence, au moins verbale, a naturellement droit de citer dans une enceinte parlementaire. La vérité, c'est que dans une assemblée dont procède l'essentiel de la politique nationale et dont émane directement le cabinet, l'exécutif, dans un régime, celui de la Troisième République, né de l'invasion prussienne, de la chute brutale du Second Empire et des désordres énormes de 1871, plus fondamentalement dans une société issue d'un siècle de révolution, de crise de régime, où coexistent les représentants élus de partis très différents, de la droite royaliste légitimiste à la gauche radicale et même révolutionnaire, le débat parlementaire est forcément âpre et même volontiers violent, et l'hémicycle est le cadre naturel de ces luttes homériques. De tous les sujets de discorde, le plus profond, le plus fréquent, le plus explosif en somme, est évidemment la question cléricale qui anime et qui sous-tend toute cette époque. Une partie des parlementaires se veut la voix de régions catholiques meurtries, inquiète de l'installation de la République, et puis une autre partie se compose d'anticléricaux farouches, souvent francs-maçons, et bien décidés à faire triompher la laïcité républicaine. Et Guilin en donne pas mal d'exemples. Ainsi, en mai 1877, après qu'Albert Demain, qui est député du Morbihan, légitimiste, après qu'Albert Demain a dénoncé à la tribune les provocations et les vexations dont les catholiques sont victimes et la prétention des républicains à incarner la nation et le patriotisme, Gambetta lui réplique 3 jours plus tard avec des mots qui sont évidemment restés célèbres dans les annales parlementaires. « Le cléricalisme, voilà l'ennemi !» formule destinée à servir de slogan au front républicain. Gambetta n'a pas hésité à dénoncer, je cite, « le mal clérical qui s'est infiltré profondément dans ce qu'on appelle les classes dirigeantes, l'effrayante multiplication des ordres religieux, leur esprit d'envahissement et de corruption ». Il parle, pour désigner ses adversaires, dans lesquels il n'est sans doute pas loin de voir des ennemis, il parle de « l'armée disciplinée aux ordres du pape, véritable général à la manœuvre, qui mène l'assaut contre les institutions, contre la révolution de 1789, dont l'activité est un levier, que dis-je, un bélier qu'il pousse contre la citadelle de l'État ». Voilà pour les tirades en ordre méditées, préparées et lues mais on n'aurait rien dit du climat qui règne dans l'hémicycle si l'on n'évoquait pas évidemment les réactions spontanées des députés, réactions qui sont toujours dûment consignées par ceux qui ont charge de relever la moindre interjection. Alors, l'un des grands ennemis de Gambetta, c'était Granier de Cassagnac, et on le voit dans le même débat, on est toujours en mai 1877. Nous sommes catholiques et patriotes, et monsieur Gambetta nous a insultés en venant affirmer le contraire. Et là, évidemment, les didascalies, vive agitation, voix à gauche, à l'ordre, et Granier de Cassagnac continue. Et monsieur Gambetta qui accuse les catholiques de n'être pas patriotes, nous demandons la justice pour tous, et nous ne tolérerons pas de pareils outrages. Et Provost de Launay arrive derrière. Nous nous sommes battus, et il ne s'est pas battu. Et Bourgeois, qui est un député qui n'a pas laissé un nom à la postérité, il est de Vendée, légitimiste, il s'adresse lui directement à Gambetta. Vous avez décoré le général Charette. On ne peut donc être à la fois patriote et catholique. On peut voir comme une transposition des combats physiques d'autrefois dans ce procédé qui consiste finalement, pour les champions de chaque camp, à sortir gentiment du rang, à venir donner son coup et puis à y rentrer.
De la symphonie numéro 3 de Schubert à l'instant sur Europe 1 et on repart immédiatement au cœur de l'histoire de l'Assemblée nationale avec vous Franck Ferrand.
Le beau nom d'Assemblée nationale, hérité de 1789 et du serment du jeu de paume, a connu une très longue éclipse dans l'histoire parlementaire si l'on accepte la parenthèse de la Seconde République de 1848 à 1851. Ce nom s'est transformé, si l'on peut dire. Il n'est réapparu qu'avec la Quatrième République en 1946. Entre-temps, la Chambre basse aura porté les noms successifs de Conseil des 500, de Chambre des députés, des départements, de Chambre des représentants, de corps législatif et, évidemment, sous la Troisième République, on en parlait à l'instant, de Chambre des députés. Plutôt que Chambre des députés, on disait la Chambre, tout court. Vous savez que cette assemblée siège depuis 1798 au palais Bourbon, c'est-à-dire dans le bel hôtel construit pour la duchesse de Bourbon. La duchesse de Bourbon, une des filles de Louis XIV et de Madame de Montespan. On est là au début, dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Cet hôtel, autant le dire, a été rendu méconnaissable par toutes les transformations qu'il a pu subir depuis, et notamment en 1808, par l'ajout du côté du pont de la Concorde d'une colonnade, c'est cette fameuse colonnade avec le fronton triangulaire, tout ça devenu désormais le symbole de l'Assemblée nationale et qui, sur un plan architectural, était destiné à faire le pendant de l'église de la Madeleine en face. Depuis le règne de Louis-Philippe, le président de la Chambre basse avec une partie de ses services sont installés dans l'hôtel voisin du palais Bourbon, on appelle l'hôtel de Lasset. Les deux palais se trouvent dès lors reliés par une grande galerie où l'on voit traditionnellement le président de l'Assemblée marcher cérémonieusement le jour de l'ouverture de la session entre une double haie de tambours de la garde républicaine. À l'intérieur du palais Bourbon, les députés siègent dans le fameux hémicycle. Ça, c'est une idée d'un certain docteur Guillotin. On a parlé à ce micro il n'y a pas longtemps du docteur Guillotin, qui est resté célèbre évidemment pour un tout autre genre d'innovation. C'est lui, le brave homme, qui a proposé que les députés se tiennent dans une salle en demi-cercle afin de faciliter les débats. Il est vrai que dans un hémicycle, tout le monde peut se voir et s'entendre. Au palais Bourbon, l'hémicycle, tel que nous le connaissons à peu de choses près, date du début de la monarchie de Juillet, de 1832 exactement, même s'il a fallu le réaménager un certain nombre de fois, ne serait-ce que pour tenir compte du changement du nombre des députés en fonction des régimes. La grande transformation, ça a été en 1959 l'installation des fameuses « machines à voter ». On est très habitué maintenant à voir les députés avec leurs petites clés qui votent. On parlera d'ailleurs de ce système de vote et des votes par procuration tout à l'heure avec mon invité. Mon invité, je vous l'ai dit, c'est Bruno Fulini. Nous allons revenir avec lui sur toutes sortes de détails et d'anecdotes qui forment la mémoire de l'Assemblée nationale. Ce que j'aimerais juste préciser avant cela, c'est que les différents bureaux et services de l'Assemblée constituent aujourd'hui une sorte de village, de gros village dans la ville. Cette cité de l'Assemblée, cette cité Assemblée nationale, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça couvre au total 124 000 mètres carrés répartis bien sûr en dehors du Palais Bourbon, rue de l'Université, boulevard Saint-Germain, rue Aristide Briand. Au total, ça représente près de 10 000 bureaux. C'est donc une énorme fourmilière parlementaire dont nous parlons. Nous allons, si vous le voulez bien, nous concentrer spécifiquement sur le Palais Bourbon et essayer de revivre les plus riches, les plus rocambolesques aussi, des heures d'une vie parlementaire bien fournie depuis plus de deux siècles.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et jusqu'à 11h, Franck Ferrand nous raconte ce matin l'histoire de l'Assemblée nationale avec l'écrivain Bruno Fulini.
Je ne résiste pas à vous lire quelques lignes extraites d'un texte de Louis Barthou, le grand homme politique de la Troisième République, texte qui figure dans le recueil intitulé « Si le palais Bourbon m'était compté » aux éditions du Moment. L'ouvrage en question est sous-titré de Victor Hugo à Jacques Chaban-Delmas, « La vie parlementaire vue par les députés ». Effectivement, ce sont systématiquement des représentants de la nation qui parlent eux-mêmes de leur métier et de la façon dont ils s'exercent. « Qui est le plus heureux ?» se demande Louis Barthou, « d'un jeune député ou d'un vieux sénateur ?» Et il dit « Par définition, tous les sénateurs sont vieux. » Attention, à l'époque, il écrit ça en 1923. « Qui donc est le plus heureux ?» d'un jeune député ou d'un vieux sénateur qui entre pour la première fois, investi d'un mandat, l'un au Palais Bourbon et l'autre au Luxembourg. « Je ne me prononce pas entre deux joies qui, pour des raisons différentes, doivent avoir une intensité égale. » Mais je suis bien sûr qu'aucune profession ne réserve à son débutant une satisfaction semblable à celle du politique qui, à peine élu, pénètre comme chez lui dans l'un des palais où siège la représentation nationale. Et un peu plus loin, Louis Barthou ajoute « 7h a sonné enfin ». Sinon le triomphe, du moins le succès, on est député. Être député, franchir les grilles du palais Bourbon, répondre par son titre à un huissier encore mal informé qui vous demande votre nom, entrer à la questure pour donner son nom et son titre, retirer du papier à lettres, des cartes lettres, des enveloppes, avec en tête, faire le tour des couloirs et des salles, prendre quelque chose à la buvette, s'arrêter devant le comptoir où se débitent les cigares de députés, jeter un regard à la fois triomphant et inquiet dans la salle des séances sur ces galeries théâtrales d'où descendront des curiosités et peut-être des sourires et peut-être des promesses, voir de près cet honneur et ce péril, Capitole et roche tarpéienne, la tribune française, et y risquer même dans la solitude assurée un passage rapide, promener sa notoriété croissante qui pourra devenir une force redoutée et une gloire enviée au milieu des journalistes empressés et indiscrets, être présenté aux illustrations, aux présidents des groupes, aux chefs d'hier et de demain. Vous voyez que Louis Barthou est très heureux de la situation du nouveau député. Qui n'a pas vécu, dit-il, en tout ou partie, ses impressions, ses sensations, ses sentiments, ne peut pas comprendre l'intensité et la variété des émotions que ces deux mots « être député » renferment, surtout pour qui arrive à la vie publique dans la fleur de sa jeunesse. On est évidemment là au beau milieu et à l'apogée d'une Troisième République qui est à par excellence le régime parlementaire, à une époque évidemment où l'Assemblée nationale, qu'on appelait donc Chambre des députés, jouait un rôle essentiel, beaucoup plus important encore que sous la Ve République, bien entendu. Mais on peut dire, Bruno Fulini, que c'est une extase qui saisit le jeune député lorsqu'il arrive dans cet hémicycle, lorsqu'il pénètre dans le Palais Bourbon en 1923.
Oui, et c'est frappant parce que Louis Barthou, avec un style magnifique, décrit quelque chose que l'on retrouve, alors des fois de façon plus ramassée ou plus naïve, mais que l'on retrouve dans tous les récits de députés. Hein, il y a plusieurs centaines de députés sur les 15 000 individus qui ont été députés depuis la Révolution, ont laissé des mémoires, des autobiographies, des récits de leur mandat, et tous insistent sur cette joie mêlée d'incrédulité. Ah bon, je suis député.
Il y a quelque chose, une dimension quasi sacrale hein, dans cette...
Parce que c'est un temple. Vous parliez de la colonnade de Poyet qui a complètement changé le bâtiment. Tout le monde voit le palais Bourbon comme un temple. Et d'ailleurs, on l'appelle parfois le temple de la loi. Donc, on entre là avec un religieux respect. C'est une expression qu'on va trouver chez Barthou. Et Barthou, lorsqu'il évoquera la tribune, parlera de l'autel de la parole. Donc, il y a toute une métaphore
aujourd'hui
religieuse.
Aujourd'hui encore, on y entre cravaté.
Les hommes, oui, les hommes. Oui, et d'ailleurs, les huissiers ont une petite réserve de cravate un peu passe-partout, c'est-à-dire qu'un député un peu pressé qui arriverait chemise ouverte peut se faire prêter une cravate pour la séance.
Autrefois, il y a eu un habit spécifique aux parlementaires ?
On l'a tenté à plusieurs reprises, mais généralement, quand on impose un uniforme aux parlementaires, c'est plutôt mauvais signe pour les libertés en général. Et donc, c'est plutôt dans les périodes impériales ou monarchiques que l'on a imposé aux
corps
parlementaires,
législatif,
par exemple, mais sous la Restauration aussi. Et sous la Restauration, il y avait même des boutons avec des fleurs de lys, ce qui fait que les rares députés républicains considéraient que c'était une livrée.
Évidemment, il y a tout un décorum à l'Assemblée nationale. Il y a un cérémonial, notamment en début de législature.
Le cérémonial est surtout important en début de législature.
Sinon, quand il y a une nouvelle législature.
Voilà. Sinon, bien sûr, chaque semaine, le président fait son entrée, salué par les gardes républicains. Vous savez que dans l'enceinte du Palais Bourbon, le président, en fait, est à la tête de cette unité militaire qui garantit la sécurité de l'enceinte parlementaire. L'aspect cérémonial est beaucoup plus important après les élections pour l'ouverture de la législature, parce que là, les députés déjà siègent par ordre alphabétique, les groupes n'étant pas constitué, et la séance est présidée par un doyen. Il va falloir élire
alors,
un président.
Le doyen en question, c'est le doyen d'âge des députés ?
C'est le doyen d'âge. Et au début de la Troisième République, on a commencé à lui donner la parole. C'est-à-dire que, initialement, il avait
un rôle... Le fameux discours du doyen.
Voilà. Initialement, il avait un rôle purement procédural. Et puis, alors c'est avec Raspail, qui était un vétéran de 1848, qu'a commencé cette tradition du discours du doyen. Discours qui est un moment un peu pittoresque, un moment de détente aussi... On sort des élections et on n'a pas encore repris la bataille. C'est une petite, brève parenthèse pittoresque et sympathique dans ce monde difficile qu'est celui de la politique.
Mon cher député, votre siège, vous l'avez gagné à une voix de majorité. Or, cette voix, c'était la mienne. J'ai voté le dernier à 19h59. Et des poussières, c'est pas du bluff. Y'a des témoins qui s'en souviennent. Dans vos réunions, sur vos affiches, à la télé, vous avez dit et répété que vous feriez tout pour nous plaire. C'est donc sans vergogne, cher ami, que je vous écris pour ces trois ou quatre petits riens que voici. Ma sœur voudrait la Légion d'honneur. Mon frère, ne pas faire son service militaire. Ma tante, oh, pas grand-chose, le jardin des plantes. Ou à défaut, elle aime la nature, un petit poste à l'agriculture. Mon fils, alors lui, n'importe quoi à la justice. Mon père, pareil, mais aux affaires étrangères. Et moi, oh moi, j'ai pas d'ambition. Chargé de mission, ça m'irait. Mais attention, hein, sans précision.
Et c'est au cœur de l'histoire de l'Assemblée nationale que nous continuons à avancer avec Bruno Fouligny, votre invité Franck Ferrand.
Les présidents de l'Assemblée nationale ont joué à travers l'histoire un rôle important. Je dis de l'Assemblée nationale, on devrait dire de la chambre basse, puisque nous avons vu que cette chambre a revêtu toutes sortes de noms en fonction des régimes. Aujourd'hui encore, le président de l'Assemblée nationale est très haut placé dans la hiérarchie protocolaire de l'État.
Il est quatrième. Il est au quatrième rang dans l'ordre protocolaire, après le chef de l'État, le président du Sénat, qui peut être amené à remplacer le chef de l'État en cas d'intérim, et le Premier ministre.
Le Premier ministre passe devant le président de l'Assemblée nationale.
Oui, c'est une curiosité de l'ordre protocolaire français, mais le président de l'Assemblée nationale a des pouvoirs importants, y compris de nomination. Par exemple, il nomme trois des membres du Conseil constitutionnel, les membres du CSA. Il doit être obligatoirement consulté si le chef de l'État veut dissoudre l'Assemblée nationale ou s'il veut user des pleins pouvoirs au titre de l'article 16 de la Constitution.
Autour du président, il y a donc un bureau qui est constitué en début de législature.
Il y a un bureau avec des vice-présidents, c'est-à-dire que le président ne préside pas la totalité
séances,
des séances, parce qu'il y en a trop, et donc il y a des vice-présidents ou vice-présidentes qui appartiennent d'ailleurs aux différents groupes de l'Assemblée.
Si l'on compare à la Troisième République, qui est toujours la référence évidemment pour l'histoire parlementaire, il y a plutôt plus ou moins de séances? Est-ce que les sessions sont plus longues, moins longues?
En fait, il faut raisonner en nombre d'heures, parce que sous la Troisième République, on voyageait en chemin de fer à vapeur, donc quand il y avait session, surtout si vous étiez député d'un département un petit peu éloigné de Paris,
eh bien, temps plein.
Voilà, vous partiez, vous preniez votre train et on ne vous revoyait plus pendant 3 mois. Vous campiez à Paris et puis retour en circonscription.
Ça fait l'objet de tellement de belles pièces de votre vie.
entre autres. Et à ce temps-là, bien sûr, est révolu avec les navettes. Bon. Alors, si on compte en nombre d'heures, plus exactement, ce qui est frappant, c'est qu'on siégeait 2 fois moins sous la Troisième République. C'est-à-dire, sous la Troisième République, on siège 450, 500 heures par an en séance plénière, en séance publique dans l'hémicycle. Il y a bien sûr tout le travail en commission qui est plus difficile à quantifier. Aujourd'hui, nous sommes autour de 1000 heures par an, un peu plus même. Donc on siège plus aujourd'hui, paradoxalement. Ça s'explique tout simplement par le fait que sous la Troisième République, il y avait des débats très peu techniques. On était vraiment sur la loi dans ce qu'elle avait de général, dans ce qu'elle avait, je dirais aussi, de philosophique. Prenez les débats sur la loi de 1905. On a de très longs débats sur ce qu'est la liberté de conscience, ce qu'est la liberté religieuse. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les débats sont beaucoup plus techniques et on peut passer des heures et des heures sur les modalités d'application de telle ou telle mesure.
On va venir évidemment dans un instant au débat et à tout le travail préparatoire en commission. Ça joue un rôle essentiel. Je pense que les députés passent plus de temps en commission que dans l'hémicycle, en tout cas ceux qui sont membres de commission parlementaire.
Ils sont tous membres de commission. En fait, chaque député est membre d'une et d'une seule commission permanente. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Le système était beaucoup plus compliqué sous la Troisième République parce qu'il y avait des bureaux au sein desquels on tirait au sort les membres des commissions qui, elles, n'étaient pas permanentes mais provisoires. Donc c'était beaucoup plus compliqué.
L'organisation générale du Parlement et notamment de la Chambre des députés était d'une façon plus générale, était plus compliqué en fait. J'ai l'impression que cette vie parlementaire, dans la mesure où elle occupait le centre même de la vie nationale, obéissait à des règles infiniment complexes sous la Troisième République.
Bon, le règlement est resté touffu, mais la grosse différence, c'est que sous la Troisième République, le gouvernement n'est en réalité qu'une émanation du Parlement. Quasiment tous les ministres sont députés ou sénateurs sous la Troisième République et le reste. Vous savez qu'aujourd'hui, vous devez choisir. Si vous êtes élu parlementaire et nommé au gouvernement, vous devez choisir. Ça n'était pas le cas sous la Troisième et donc le gouvernement, d'un certain point de vue, faisait corps avec les chambres et lorsqu'il y avait un vote de confiance ou de défiance, eh bien les ministres eux-mêmes votaient. Il est même arrivé des fois que en ayant un différend avec leur président du Conseil, un député ministre vote contre le gouvernement auquel il appartenait. C'est pourquoi on a mis fin à ce système.
Si l'on compare à ce qui se passait il y a un siècle, en 1911, est-ce qu'il y a plus ou moins de députés aujourd'hui ?
Il y en a moins. Aujourd'hui, il y a 577 députés et ce chiffre a été d'ailleurs gravé dans le marbre puisqu'il maintenant il est constitutionnel. Alors que sous la Troisième République, on est entre 600 et 615 députés. Sachant que, par ailleurs, sous la Troisième République, ne votent que les hommes de plus de 21 ans, sauf les militaires. Donc on n'a même pas 20 millions d'électeurs.
Il n'y a évidemment à l'époque que des hommes dans l'hémicycle.
Il n'y a que des hommes dans l'hémicycle, sauf en 1936, car Léon Blum, pour montrer l'absurdité de cette situation, va nommer 3 femmes sous secrétaire d'État, et non ministre, dans son gouvernement.
Donc elles siègent sur les bancs des ministres.
Donc elles siègent au banc du gouvernement, mais vous voyez, elles ne sont que sous secrétaire d'État, y compris Irène Joliot-Curie, qui est tout de même, par ailleurs, prix Nobel de physique, si vous voulez, et elles ne prendront jamais la parole. Ça, c'est tout à fait étonnant. Elles seront membres du gouvernement, mais de façon symbolique, elles ne prendront pas la parole. Donc il faudra attendre l'après-guerre pour entendre des femmes dans l'hémicycle.
Les femmes sont élues députées donc depuis
1945. Et en fait, c'est l'ordonnance du 21 avril 44 qui leur donne le droit de vote et l'éligibilité. Alors, deux petites choses tout de même pour corriger cela, c'est qu'il y avait quelques femmes déjà à l'Assemblée consultative d'Alger dès 1943. Et puis, si on remonte dans le temps, en fait, le débat sur le vote des femmes s'est enclenché dès le début du XXe siècle. Et il y a eu en 1919, compte tenu du rôle très important qu'avaient joué les Françaises pendant la la Grande Guerre, il y a eu un débat au cours duquel les députés, à une forte majorité, ont voté en faveur du droit de vote et de l'éligibilité des femmes. Mais ils l'ont fait, soyons honnêtes, en sachant bien que le Sénat bloquerait la réforme.
Ça, oui.
Et donc, à 6 reprises sous la Troisième République, on a eu un vote de l'Assemblée favorable.
C'était un manifeste sans conséquence.
Voilà, on a eu une réforme comme ça qui est restée indéfiniment entre deux, puisque le Sénat la refusait.
Pour ce qui est de l'origine socio-professionnelle des députés, on a toujours l'image d'une Troisième République où la plupart des députés sont des avocats. On parlait de la République des avocats.
Il y avait beaucoup d'avocats, il y en a toujours. Ils n'ont jamais été non plus aussi dominants que cela. Il ne faut pas oublier les médecins, et en particulier les médecins de campagne, les médecins
des professions libérales, d'une façon générale.
Les professions libérales. Il y avait aussi des militaires, ça a beaucoup reculé, mais on avait pas mal d'officiers, d'officiers supérieurs, de généraux, qui se lançaient dans la politique, la retraite venue, soit qui étaient nommés à des ministères type marine ou guerre, et qui ensuite prenaient goût à la politique et y restaient. Donc il y avait ce personnel-là. Et puis il y a toujours eu un certain nombre de gens qui ont fait toute leur vie de la politique, alors qu'ils pouvaient osciller entre le journalisme et les mandats politiques, mais qui étaient vraiment des hommes politiques, pour ainsi dire, de profession.
Il y a beaucoup plus aujourd'hui de fonctionnaires en disponibilité.
Il y a aujourd'hui, je dirais, plus de petits fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires ont toujours été assez nombreux. Et le problème des fonctionnaires s'est surtout posé, plutôt sous la Restauration. Parce que on pouvait cumuler les fonctions de fonctionnaires avec celle de parlementaire. Et donc, évidemment, l'opposition y a vu un abus manifeste de la part de la monarchie. Et ça, il y a eu un débat très important au XIXe siècle sur cette question-là.
Avec vous, Bruno Fulini, nous allons dans un instant pénétrer dans l'hémicycle et assister à ce que pouvait être une séance généralement houleuse sous la Troisième République.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Bruno Fulini, vous êtes historien du Parlement, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, vous êtes entré à l'Assemblée nationale en 1996 et pendant longtemps, pendant près de 10 ans, vous avez participé à la rédaction du compte-rendu analytique des séances. C'est-à-dire que, en fait, vous écriviez le texte de ce qui se disait dans l'hémicycle ?
Le principe est que les séances sont publiques et donc elles font l'objet de compte-rendus. Alors tout ça a changé puisqu'aujourd'hui les compte-rendus s'affichent aujourd'hui sur Internet, mais il y a toujours des compte-rendus écrits effectivement de façon à attester ce qui a été dit dans l'hémicycle.
L'héritier du fameux logographe de 1792.
Tout à fait, c'est à peu près le même métier, sauf que le logographe est aujourd'hui en ligne, mais c'est exactement le même métier. Le titre de logographe lui est tombé en désuétude.
En fait, tous les débats des deux chambres du reste, mais figure in extenso. Ça, c'est tout à fait passionnant pour les historiens. On peut savoir exactement ce qui s'est dit à très peu de choses près.
C'est une source extraordinaire. D'autant que le
compte-rendu... À toutes les époques, il faut dire. Quasiment à toutes les époques.
De la Révolution à nos jours. Et sachant que les comptes-rendus respectent même le phrasé. Donc, on retrouve même parfois une part de l'oralité. Pour les très grands orateurs qui étaient des improvisateurs...
On les entend.
Ouais, on les entend. Et prenez quelqu'un comme Jaurès. Si vous lisez un texte écrit par Jaurès, c'est un petit peu lourd pour nous aujourd'hui parce que c'est très vissé, c'est très argumenté, c'est un petit peu difficile. Alors qu'un discours saisi au vol par les sténographes, c'est un vrai plaisir de le lire.
On dit que Jaurès apprenait ses discours par cœur afin de ne pas les lire.
C'est plutôt Victor Hugo qui avait recours à cette ruse. Jaurès les préparait, ces discours. Il lisait beaucoup, il prenait des notes, mais en fait, les notes restaient tassées au fond de ses poches et il pouvait parler, comprenez bien, il pouvait parler pendant 3 ou 4 heures. Et on voit des fois dans des comptes rendus les députés qui l'interrompent en disant « Reposez-vous, reposez-vous ». À 2 reprises, Jaurès a été pris de malaise à la tribune, donc on a arrêté la séance après 3 heures de discours. Il fait dodo, il se repose, on reprend la séance le lendemain et il repart pour 3 heures.
C'était des espèces de marathons d'éloquence.
Oui, mais il y avait une forme de transe en fait. Un orateur comme Jaurès construit son discours à mesure qu'il parle et finit par arriver dans un état d'excitation, de transe. D'ailleurs, tous les gens qui ont observé Jaurès à la tribune décrivent un personnage débraillé, en sueur, les yeux hors de la tête, parce qu'il y a cette élévation qui se fait à mesure que l'on parle.
Quand même eu cette époque où on avait dans le même hémicycle un Jaurès, un Clémenceau, enfin des personnes...
Un Barrès. Oui. Oui. Alors, il ne faut pas non plus complètement idéaliser le passé. C'est-à-dire, je prends toujours la précaution de dire, à la même époque, il y avait Amédée Quénon, personnage qui est resté dans la petite histoire parlementaire pour le terme de quénonade, qui désignait une ânerie. Il y avait aussi de très mauvais orateurs et des députés qui étaient uniquement préoccupés d'intérêts locaux. Hein, sur, je vous ai dit, plus de 600 députés par législature, finalement, nous avons retenu qu'une vingtaine de noms. Par contre, ces noms-là, nous les avons retenus à bon droit parce que c'était des personnalités extraordinaires.
Maître Izorni, qui a été un des grands avocats, qui notamment était l'avocat de l'un des défenseurs du maréchal Pétain après la guerre, Maître Izorni raconte que l'éloquence, alors on a toujours sans doute ce sentiment, mais que l'éloquence a commencé à tomber sous la 4e République avec la lecture, dit-il, dans le texte qui figure donc dans ce recueil Si le Palais Bourbon m'était compté. On a l'impression que tout ça devient un peu préparé, un peu trop préparé après 1946, que la grande époque des tirades et des échanges verbaux est passée.
Dans le même livre, vous retrouverez sur ce thème un texte de Jacques Chaban-Delmas comment cette éloquence parlementaire ne correspondait plus à la sensibilité de l'auditoire. Et en particulier, ce qu'il note et qui est très vrai, c'est que les discours deviennent plus techniques parce que le contrôle parlementaire a changé de nature, d'une part. Et puis, il y a aussi un changement tout bête, technique, c'est l'installation des micros. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on met des micros dans l'hémicycle. Donc, un orateur n'est pas obligé de forcer sa voix et peut même lire patiemment une longue suite de chiffres pour développer une argumentation technique. Alors que les grands tribuns de la Troisième étaient des gens qui étaient habitués, parce qu'ils avaient été élus comme cela, à s'exprimer sur les principes avec de grandes périodes oratoires, avec une voix très théâtrale. C'était des gens qui étaient capables de parler à des assemblées tumultueuses, sans micro. Et quand je dis tumultueuses, c'est que pour être élu député à l'époque, il fallait être capable de dominer une salle simplement par sa voix à une époque où on faisait des réunions électorales contradictoires, c'est-à-dire où vos adversaires venaient faire du barouf pendant que vous exposiez votre programme.
L'éloquence, on le sait bien, n'est pas liée seulement à la forme, ça dépend aussi du fond, et c'est toujours Jacques Izorni qui précise, je le cite, toujours extrait de ce beau recueil, « L'attention d'un auditoire politique n'est pas seulement fonction de la valeur d'un discours et des qualités oratoires. Elle est aussi, dit-il, fonction de ce que représente le discours. Et l'éloquence elle-même, si on l'analyse de près, n'est pas faite que de mots bien dits, mais de l'importance de ce qu'elle révèle et de la qualité de ceux qui s'expriment. Deux discours identiques, ajoute Maître Izorni, n'auraient pas une force identique, même prononcés rigoureusement de la même manière, avec la même voix, les mêmes intonations et les mêmes gestes, si les orateurs occupent des fonctions différentes, l'un simple parlementaire, l'autre par exemple chef du gouvernement. Le poids de la fonction ajoute spontanément à l'éloquence, elle ajoute aux vertus oratoires, quelquefois même elle y supplée, c'est elle qui impose le silence et qui force l'attention. Il y a évidemment, il ne faudrait peut-être pas l'oublier, dans les discours qui se prononcent dans l'hémicycle, il y a une force politique aussi bien entendu, on n'est pas seulement dans l'art oratoire.
Il y a bien sûr les ressources de l'éloquence et de la rhétorique, il y a un contenu et puis il y a le moment. Il y a le moment. Quelque chose qui sera scandaleux aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans une semaine ou dans 15 jours. Et effectivement, la force d'un grand orateur, ça va être de saisir le moment. On disait par exemple d'Aristide Briand qu'il avait des antennes, qu'il savait saisir la salle, il savait saisir son auditoire, qu'il faisait un petit peu ses gammes au début, et puis ensuite il y avait cette belle voix de violoncelle qui a été décrite par tous les témoins, en fonction de la réceptivité de l'auditoire, il allait plus ou moins fort, il était plus ou moins long, il était plus ou moins consensuel.
Et il y a cette magie. Il se crée à chaque séance, moi j'ai assisté souvent à des séances à l'Assemblée nationale, il se crée une atmosphère particulière. On a l'impression qu'il y a une tonalité de la séance. Alors évidemment, le président de séance joue un rôle important, il est un peu l'arbitre. Parfois, les questions au gouvernement en donnent souvent un témoignage aujourd'hui. Il devient un peu le garde-chiourme parce que ça peut devenir très 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 dissipé, une assemblée de députés quand même.
Oui et non. le paradoxe, c'est que la retransmission télévisée des questions au gouvernement fait que tout le monde voit l'hémicycle à travers cet exercice. Or, en fait, c'est un exercice relativement récent. Il a été institué au début du septennat de Giscard d'Estaing.
C'est Edgar Faure.
Edgar Faure étant président de l'Assemblée nationale. Donc, historiquement, c'est assez récent. Et puis, c'est assez marginal. Je veux dire par là que ça occupe une cinquantaine d'heures dans l'année par rapport à des centaines d'heures de débats qui n'ont pas du tout la même publicité et au cours desquelles eh bien, les députés s'expriment d'une façon toute différente. Dans les questions au gouvernement, vous n'avez que 2 minutes. Ça change tout.
Néanmoins, lorsqu'on lit dans les comptes rendus de séance, on voit depuis très longtemps ces expressions, applaudissements prolongés sur tous les bancs. Le chahut n'est pas une invention récente.
Mais il n'y a pas que du chahut, on a le droit d'applaudir. Alors effectivement, dans les comptes rendus, vous avez entre parenthèses et en italique ce qu'on appellerait au théâtre des didascalies et qui, dans le jargon parlementaire, sont des mouvements de séance. Il en existe de toutes sortes. Le plus beau, c'est lorsque, en 1893, a été lancée une bombe dans l'hémicycle et vous avez, entre parenthèses et en italique, à ce moment, virgule, et on a toute la description de cette chambre qui dignement eh bien, constate l'attentat, et puis le président qui déclare que, messieurs, la séance continue.
De la marche militaire numéro 1 de Schubert à l'instant sur Europe 1. Et on est maintenant dans l'hémicycle même de l'Assemblée nationale avec l'écrivain Bruno Fulini, votre invité Franck Ferrand.
Nous étions dans les tumultes, parfois très beaux du reste, du débat parlementaire. Quand même, les pupitres servent parfois de caisse de résonance, ils permettent de faire un peu de bruit.
Toute l'histoire parlementaire consistait à désarmer les députés. À la convention, vous pouviez venir avec une épée, avec un pistolet, c'était même plutôt recommandé certains jours parce que on n'était pas sûr de sortir vivant. Et il y a eu cette séance incroyable où Marat a commencé à être décrété d'accusation. Il s'est levé, a plaqué son propre pistolet sur sa tempe en expliquant que bien si on le décrétait d'accusation, il se chargeait d'exécuter la sentence ici même. Ça a calmé tout le monde. Donc les députés pendant longtemps sont venus armés et petit à petit, surtout au Palais Bourbon à partir de 1798, quand ils s'y sont installés, on a cherché à les désarmer, à faire en sorte qu'ils laissent canne, parapluie et tous objets contendant au vestiaire. Donc il leur est resté 2 armes, pendant longtemps le coupe-papier hein, qui permettait de faire du bruit, ça aussi ça a disparu, et puis le pupitre qui peut être frappé en cadence par tout un groupe, et là ça, c'est le seul bruit qui couvre complètement la parole d'un orateur. Alors à une époque on avait imaginé de revêtir de liège la bordure de ces pupitres pour atténuer le bruit, mais très vite les députés ont arraché le liège et depuis la Troisième République, plus personne n'a touché à leur pupitre.
Ça fait partie de leur moyen d'expression aussi ce pupitre finalement. On l'entend quand même frapper assez régulièrement en ce moment. Hein.
Non, pas tant que ça. Vous savez, contrairement à ce que l'on imagine, les séances actuelles sont beaucoup moins violentes que celles, par exemple, du 19e siècle. Pendant l'affaire Dreyfus, Jaurès se fait boxer à la tribune. Vous imaginez, il parle, un député monarchiste monte à la tribune pour lui taper dessus. Et ça va déclencher une bagarre générale. Nous sommes heureusement très loin de ces débordements aujourd'hui.
On a civilisé les débats, finalement.
Oui, et puis bon, la société aujourd'hui est moins violente.
Policée.
Sous la Troisième République, impossible d'imaginer une bonne réunion électorale sans une bagarre à la fin. Ça tenait aussi au caractère exclusivement masculin de l'engagement politique, ou presque exclusivement masculin. Bon, tout ça a considérablement évolué. Alors c'est vrai que du coup on surréagit aujourd'hui lorsqu'il y a la plus petite ébauche de violence ou d'attaque.
On a une image qui probablement là encore est fausse, mais qui est celle d'un hémicycle bourré à craquer autrefois et aujourd'hui beaucoup plus clairsemé. C'est la fameuse question de l'absentéisme qu'on pose toujours. Est-ce que les députés de la Troisième République étaient plus assidus que ceux de la Cinquième?
Pas tellement. Alors, il y avait cette configuration qu'on a évoquée du député d'un département lointain qui de toute façon est à Paris. Et donc qui va passer sa journée au Palais Bourbon, pas forcément dans l'hémicycle, par exemple à la bibliothèque. Mais à la bibliothèque, c'est pas forcément pour lire des livres, ça peut être pour faire son courrier. Parce qu'à l'époque, les députés n'avaient pas, comme aujourd'hui, chacun un bureau pour travailler. Ils avaient très peu de moyens matériels. Ils n'avaient pas d'assistants non plus. Donc on a beaucoup de députés qui sont là, dans les couloirs, qui entrent et qui sortent, sans forcément, à l'époque, s'investir beaucoup dans les débats. Et puis il y a toujours eu le problème du député absent qui a quand même envie de voter et qui délègue son vote. Alors un certain Aristide Jobert, député socialiste de Lyon, avait imaginé de poser un cadenas sur son pupitre pour empêcher son groupe de voter pour lui en son absence. Mais sinon, les autres effectivement donnaient... À l'époque, on votait avec des petits cartons, blancs ou bleus, et donc il y avait des personnages importants qu'on appelait les boîtiers. Vous leur confiez votre boîte de bulletins et ils pouvaient voter à votre place. Mais depuis... ce sont des errements du parlementarisme. Et justement, la Ve République a voulu remédier à cela. Aujourd'hui, un député ne peut plus voter que pour un seul de ses collègues.
On a vu, mais ça c'est assez vieux maintenant, ces députés qui passaient dans une travée complète et qui tournaient toutes les clés. Là. Ça,
c'était la fameuse nuit des petits couteaux, effectivement. Ouais. Mais ça n'est plus possible
en
aujourd'hui.
Année, ça
c'était en 86 ou 87. Oui, ça, oui. Mais ça n'est plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, la technique avait permis ce que la Constitution et la loi organique interdisaient, c'est-à-dire qu'un député puisse voter pour plus d'un autre collègue absent. Et aujourd'hui, le système est différent.
Bruno Fuligny, vous n'êtes pas étranger au recueil de tous ces très beaux textes qui participent à la mémoire parlementaire. Si le Palais Bourbon m'était compté, c'est aux éditions du Moment, avec une préface du président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. On peut visiter l'Assemblée, on peut même assister à des séances, il faut le dire aux auditeurs.
Bien sûr, c'est encore une fois le principe de la publicité des débats. Donc on peut assister à une séance devant son écran de télévision, mais on peut aussi venir au Palais Bourbon. Alors, on peut se présenter simplement devant les grilles, mais il faut qu'il y ait suffisamment de place. Sinon, pour assister aux séances ou pour visiter le Palais Bourbon les jours où il n'y a pas séance, pour
on
voir...
On peut visiter l'hôtel de Lassay aussi.
Exactement. Dans ce cas-là, le plus simple est de s'adresser à son député, hein, qui indiquera la marche à suivre.
J'aurais bien aimé qu'on parle des commissions, des rapporteurs, de l'agenda, de tout ça. Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. J'espère en tout cas vous avoir donné envie d'aller sur place visiter ce Palais Bourbon et voir tout ce qui s'y passe. Après tout, c'est le creuset même de la vie nationale.
C'est le cœur battant de la démocratie.
Merci de nous avoir accordé votre attention en ce dimanche électoral. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures historiques.